Émission d'En jase, on va parler des Jeux olympiques tout à l'heure en fin d'émission avec Alex Laramé, belle médaille d'or en patinage de vitesse longue piste en équipe. Mais maintenant, comme le temps est compté, comme elle est une femme très en demande à l'heure actuelle avec la conférence de presse qu'elle a faite à 10h concernant la mobilité de la grande capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, on va immédiatement rejoindre au bout du fil la candidate à la chefferie de la CAQ, Mme Christine Fréchette. Mme Fréchette, merci beaucoup pour votre temps que vous nous accordez aujourd'hui.
Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous.
Mme Fréchette, est-ce un désaveu du travail de Geneviève Guilbeault et de votre chef, le premier ministre François Legault, votre annonce d'aujourd'hui?
Écoutez, la situation a évolué là, entourant le troisième lien. D'une part, les quelques appuis qu'il y avait pour le corridor central pour un troisième lien ne sont plus là. Donc, il fallait reconsidérer donc le lieu, d'une part. Puis nous, moi, comme candidate, là, je veux agir sur le court terme. C'est important d'amener des résultats pour la population de la capitale nationale, puis de Chaudière-Appalaches à brève échéance, parce que ça fait longtemps que cet enjeu-là de la mobilité perdure dans la région. Alors, ce que je propose, c'est d'agir dès le printemps prochain pour les 3-4 prochaines années sur le réaménagement de la tête des ponts à Québec, également l'élargissement de l'autoroute 20 sur une plus grande distance, également rabaisser le tablier du pont de Québec de telle sorte que les camions puissent à nouveau circuler sur le pont de Québec, ce qui va créer une sécurité économique parce qu'à l'heure actuelle, il y a un seul des deux ponts qui peut avoir du camionnage. Ça pose un enjeu d'insécurité advenant qu'il y ait quelque chose là, qui nous amène à devoir fermer le pont pour une certaine période de temps. Il y aura également la construction d'un pont à étagement à l'intersection de Robert-Bourassa et le Bourgneuf et le lancement d'un appel de proposition pour un nouveau lien interrive mais plus à l'est, celui du corridor central. N'a pas l'appui des gens de la communauté. Et c'est des coûts importants pour les finances publiques qui, on le sait, sont quand même mises sous pression. Alors moi, je veux que le privé participe au développement du nouveau lien interrive plus à l'est.
Mais Mme Fréchette, si on déploie toutes les actions qui sont dans la phase 1, est-ce qu'on va vraiment avoir encore besoin d'un troisième lien après?
Mais je pense que les gens souhaitent qu'il y ait accès à un lien plus à l'est pour question de contourner la capitale nationale pour certains déplacements, le transport de marchandises notamment. Je pense que ça répondrait à des besoins notamment des régions environnantes plus à l'est pour faciliter l'accès à l'autre rive du fleuve. Donc voilà, moi j'attends du privé à ce qu'ils nous soumettent des propositions. Et ma perception, c'est qu'il faut que ce soit le privé qui soit leader dans le financement. Puis j'ose espérer que le fédéral aussi sera du nombre pour financer un tel lien. Et dans le contexte actuel, les finances publiques sont vraiment mises sous pression. On a des nombreux projets, dossiers, enjeux en matière d'hôpitaux à rénover, des écoles, des routes à entretenir, à remettre à niveau. Alors, il faut vraiment ordonnancer nos priorités tenant compte de ces besoins-là dans les infrastructures autres.
Dans les derniers jours et les dernières semaines, vous avez consulté, vous avez fait vos devoirs, vous avez parlé à plein de gens. À la lumière de tout ça, est-ce que techniquement, vous croyez vraiment que c'est possible d'avoir un projet de troisième lien à l'est? Parce qu'il y a quand même des défis techniques importants. Vous, vous y croyez?
Oui, tout à fait, parce que c'est ce que m'ont dit les gens que j'ai appelés, justement, les autorités, les dirigeants d'organismes économiques, les maires, les citoyens, des collègues également.
Tu sais, mais ça, ce n'est pas des ingénieurs, par contre, hein, Mme Fréchette?
Non, effectivement. Puis j'ai rencontré aussi des spécialistes. Puis chaque tracé pose des défis techniques. Le corridor central, notamment, on me disait que le défi technique était colossal. Donc, c'est sûr que le fleuve, hein, c'est un joyau, certes, mais c'est aussi des complexités sur le plan de l'ingénierie. C'est un des fleuves les plus profonds au monde, là, ai-je appris. C'est 50 mètres de profond. Donc, c'est sûr que ça pose des enjeux sur le plan technique. Mais je suis confiante qu'on a l'expertise qu'il faut pour déployer une infrastructure qui va servir les Québécois. Et voilà. Donc, il y avait une demande assez partagée, je vous dirais, de l'ensemble des personnes que j'ai appelées pour un lien plus à l'est. Les gens souhaitaient davantage une boucle qu'un corridor qui est très rapproché des centres-villes, qui par ailleurs aurait causé une pression additionnelle aussi sur le trafic à Québec puis à Lévis. Ça, les gens voulaient éviter ça. Et moi, je vous dirais aussi, comme dirigeante potentielle de la CAQ, eh bien, c'est important qu'on gère les finances publiques d'une manière rigoureuse. C'est dans l'ADN de la CAQ. Alors, j'arrive avec un plan pragmatique, complet, en plusieurs étapes, dont les gens vont pouvoir bénéficier des retombées à courte échéance.
Justement, parlant des finances publiques à gérer de façon rigoureuse, question des auditeurs, si le troisième lien à 11 milliards est trop cher et que ça prend un partenariat du privé, qu'est-ce qu'on fait avec le tramway si les coûts explosent à, par exemple, 11 ou 13 milliards?
En fait, on va continuer de faire pression sur le fédéral. Vous savez qu'au fédéral, il y a des demandes qui ont été faites pour le financement du tramway. Alors, on va poursuivre nos discussions. Il y a eu un changement de gouvernement de leur côté. Ça a amené un retard, mais je suis très confiante que le fédéral va être présent pour ce qui est de financer le tramway de Québec. On va trouver des solutions. Donc, je vais m'y attarder, m'y engager dès mon arrivée en fonction.
À 40 % même si le projet venait exploser là, dans les alentours de 11 ou 13 milliards, comme Steve Lavoie le laissait paraître en Chambre des communes?
Écoutez, là, j'ai pas les chiffres de dernière version des chiffres, donc je peux pas m'avancer là, précisément sur un montant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le fédéral doit être présent dans une très grande part, une part significative, de telle sorte qu'on puisse baisser la pression sur les contribuables québécois.
Parce que ça serait très difficile pour le fédéral d'aller chercher un 40 % de 13 milliards, par exemple, parce que ça les amènerait à peu près là, à 6 milliards. Puis présentement, ils ont juste donné 1,45 milliards et ils ont 5 milliards par année pour l'ensemble du Canada. Ça ne sera pas possible d'aller chercher ça pour Québec?
Ben, on va mettre tous les efforts possibles. Et puis, il y a les programmes qui, sous l'ère Trudeau, ont été modifiés maintenant que c'est l'ère Carney. Alors, il y a eu une reconfiguration, je vous dirais, des programmes. Je pense qu'on a un contexte aussi qui fait en sorte que le premier ministre Carney souhaite qu'il y ait des projets d'infrastructure. On le sent très preneur de ce type d'investissement-là parce qu'il y a matière à aider au développement économique dans le contexte de la guerre tarifaire qu'on connaît, puis des projets d'infrastructure tels que celui du tramway de Québec, ça peut répondre à cet objectif-là.
Pourquoi cette fois-ci les Québécois vous feraient confiance sur votre plan de mobilité? On parle de projets qui ont été abandonnés par la CAQ. On parle d'une nouvelle refonte d'un troisième lien qu'on nous promet depuis maintenant des années et des années du côté de la CAQ. Pourquoi les Québécois vous feraient confiance avec ces projets-là?
Mais la proposition qu'on a faite ce matin va bien au-delà d'un troisième lien. Elle permet d'agir maintenant, au cours des prochains mois, pour améliorer la circulation. Puis je pense que c'est ça que les gens de la région veulent. Pas nécessairement avoir gagné 2 minutes dans 12 ans avec un troisième lien qui serait mis en place. Je pense que les gens veulent rapidement des améliorations de la situation, puis c'est ça qu'on propose. C'est beaucoup plus complet comme approche. Et puis, en plus, ça ne met pas autant de pression sur les finances publiques. Là. Dieu sait qu'on aura des choix importants à faire entre des hôpitaux à rénover, des écoles à rénover, des routes aussi à entretenir. Donc, on arrive avec, je pense, une proposition beaucoup plus d'impact, de beaucoup plus d'impact pour les citoyens à brève échéance. Et je comprends pas que Bernard Drainville s'en tienne encore coûte que coûte à un projet entièrement financé par les fonds publics qui n'a pas l'appui des gens de la région, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique. Alors moi, j'arrive avec une proposition qui rallie, qui rassemble. Je pense que ça fait montre du type de leadership que je souhaite avoir. Et j'étais très fière d'avoir notamment Martine Biron à mes côtés, qui, elle, a été les deux mains dedans, là, comme on dit, depuis plusieurs années là au niveau du troisième lien. Puis François Bonnardel aussi, en tant qu'ex-ministre des Transports. Donc ça me donne confiance quant au fait que ça réponde, en plus des discussions que j'ai eues avec les citoyens, les collègues, puis également les dirigeants politique et économique. Donc, ça me donne confiance que ça répond adéquatement aux besoins de la population.
Exactement. Vous êtes présenté aujourd'hui avec, à vos côtés, une députée de la Rive-Sud de Québec. Pour vous, ça devait évidemment faire partie un peu de la stratégie de communication d'annoncer cet appui-là aujourd'hui. Il y avait aussi tantôt, on avait la présidente de la Chambre de commerce de Lévis qui nous disait que c'est la première fois que quelqu'un la consultait sur le troisième lien depuis toutes ces années qu'on parle du projet. Mais de l'autre côté, votre adversaire, Bernard Drainville, essaie toujours un peu de vous définir comme étant hésitante. On consulte, c'est long, on décide pas. Est-ce que vous êtes une personne hésitante, Mme Fréchette?
Pas du tout. C'est que je suis une personne qui est à l'écoute, d'abord et avant tout. Alors moi, d'entendre Bernard Drainville se vanter qu'il n'a pas besoin de parler à qui que ce soit parce qu'il connaît la solution, ben, je pense pas que c'est la façon de faire la plus constructive. Moi, j'ai pris le temps de parler aux gens, de les consulter. Et j'étais contente justement d'appeler la présidente là, qui disait qu'effectivement, elle m'avait confié que c'était la première fois qu'on la consultait sur le tracé en tant que tel, ce qui m'a étonnée, je dois vous dire. Mais toutes les personnes à qui j'ai parlé ont salué le fait que je prenne le temps de les appeler. Ça a été apprécié de toutes parts. Alors, peut-être Bernard a une autre perception de la chose, mais moi, ce que j'entends sur le terrain, c'est que les gens ont vraiment salué ma démarche. Et j'en suis fière parce que, en fait, ça fait partie de ma façon de faire. Ça fait partie de mon type de leadership, d'être rassembleuse. Et je pense que c'est nécessaire, particulièrement quand on fait des investissements de cette ampleur-là, dans un contexte où les finances publiques, on le sait, sont resserrées, eh bien, c'est important qu'on soit en phase avec les besoins du milieu. Et puis, je pense que notre plan répond pleinement à ça.
Christine Fréchette, on vous remercie infiniment pour votre participation à l'émission On en jase. On vous souhaite bon succès dans la campagne à la chefferie de la CAQ. Au plaisir de se reparler. J'ai entendu que vous allez avoir des débats là, au mois de mars, là, donc ça va être intéressant de vous parler avant ou après.
Ben parfait. Merci pour l'invitation. Ça m'a fait grand plaisir.
Merci beaucoup. Au revoir. C'était Christine Fréchette, candidate à la chefferie de la CAQ, qui a présenté son plan de mobilité pour la capitale nationale Chaudière-Appalaches. Une auditrice qui écrit sur le fameux troisième lien, François Legault très mal géré le sujet. Il a manqué de respect envers les Québécois, Québécoises. Il l'avait promis pour se faire réélire, mais il n'a pas tenu sa parole. En effet, puis malheureusement, Mme Fréchette, il faut qu'elle récupère ses pots cassés-là. Mais je le dis à nouveau, je l'ai dit d'entrée de jeu dans l'émission, c'est un super bon plan qui a été présenté.
Oui, puis elle doit réparer les pots cassés, mais en évitant aussi de mettre, évidemment, Geneviève Guilbeault,
ben oui,
François Bonnardel, Jonathan Julien, puis François Legault dans l'eau chaude ou dans le trouble. Donc, c'est un équilibre qui est fragile pour elle.
De toute façon, on s'entend, t'sais. On comprend là, que Geneviève Guilbeault n'a pas bien géré le projet. Là. Elle n'a jamais parlé aux acteurs économiques.
Ben,
a mis un tracé à côté de Valero sans parler à Valero.
Oui. Puis, d'un autre côté, il y a un premier ministre aussi qui, après l'élection partielle dans Jean Talon, a changé d'idée puis que là, il a renvoyé la même ministre à aller défendre le contrat.
Non, c'est ça.
À un moment donné, elle ne pouvait pas non plus faire de miracle.
En effet. Donc, la CAQ a mal géré le projet. C'est pas nécessairement Christine Fréchette qui a mal géré ce projet-là. Antonine, je veux t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? C'est la première fois que je l'entends lancer des flèches aussi visé envers Bernard Drainville.
Bien, on est vraiment dans une campagne. C'est une vraie campagne qu'on
oui,
a.
Hein?
Okay? On ne se préserve pas. Donc, d'un côté, on a M. Drainville qui essaie de coller une étiquette à Mme Fréchette d'hésitante, puis elle ne tranche pas, puis on tergiverse, puis on jase et tout ça. Et de l'autre côté, Mme Fréchette, elle réplique et elle dit, bien, écoutez, si vous voulez quelqu'un qui part tête baissée pour dépenser des milliards de dollars puis qui parle à personne puis qui a donc raison. Elle était quand même à l'attaque
ouais,
là-dessus. Et c'est vraiment le choix très clair qui est donné aux membres de la CAQ en ce moment. C'est deux approches complètement différentes. Ils ne sont pas nécessairement très loin sur les questions des idées. Ce n'est pas si différent. Mais sur la question de l'approche et le style de leadership, c'est très différent.
Puis je trouve ça intéressant parce qu'on vient vraiment brasser les cartes de ce qui se passe à la CAQ depuis des années. On présentait au début de la campagne Christine Fréchette comme la candidate de l'establishment. Je vais
oui,
le mettre entre parenthèses. Comme elle qui allait poursuivre ce que la CAQ avait fait. Puis depuis quelques semaines, on veut ramener le PEC. On met le troisième lien aux poubelles pour en ramener un à l'Est. On ramène plein de projets de mobilité qu'on était censé faire dans la capitale nationale du côté de la CAQ, puis qu'on fait pas. De plus en plus, on voit une Christine Fréchette qui ose pas,
qui ose
critiquer ouais, le gouvernement actuel de la CAQ.
Et se détacher de certaines décisions que la CAQ a prises avant la course à la chefferie. Donc, moi, cette trame narrative de dire Bernard Drainville, c'est le renouveau et Christine Fréchette, c'est l'establishment, je pense que ça a été assez flouté.
Ça marche pas.
Ça marche pas.
Non, ça marche vraiment pas. Je termine là-dessus, Anto. Est-ce qu'elle a cette personnalité assez rassurante à la Mark Carney pour bien positionner la CAQ aux prochaines élections?
Oui, on dirait que Mark Carney, c'est devenu l'étalon or, l'élément.
Bien, c'est parce qu'il a pris un parti qui était voué à l'échec total, puis il l'a ramené, c'est ça, il l'a ramené au pouvoir.
Avec un contexte qui a tellement changé politiquement. Je dirais pas que Christine Fréchette, c'est Mark Carney 2.0,
mm-hmm,
c'est différent. Mais oui, je pense qu'on n'est pas dans une époque où on veut nécessairement des politiciens flamboyants. On veut, au contraire, quelque chose peut-être d'un peu plus rassurant, quitte à ce que ce soit un peu beige. Puis tu sais, des fois, on idéalise un peu les politiciens du passé. On dit « Oh, c'était des grands politiciens!
Oh, » ouais.
On oublie, on sait plus. T'sais, ils n'étaient pas plus aimés à la fin de leur mandat. Là,
on oublie que Lucien Bouchard a démissionné
oui,
parce que les militants du PQ disaient « Tu veux pas faire de référendum? » Dehors!
Oui. Puis René quand Lévesque a mal fini aussi. C'est toujours
ben, c'est
comme ça. Mais après ça, on oublie puis on les idéalise. Là, Stephen Harper est super populaire en ce moment. Georges Charest est populaire.
Ouais.
Bon. Mais je pense qu'effectivement, on est dans un moment où on ne veut pas d'effet de touche, on ne veut pas des lignes assassines. Tu sais, Pierre Poilievre est pogné avec ça, parce que
ouais,
lui, c'est un super bon politicien, il y a des lignes punch et tout, Mais on dirait, ça insécurise les gens.
Je trouve
gens.
Que PSPP commence à être pogné avec ça aussi.
Mais t'as pas tort, tu sais, c'est un risque. Je trouve que PSPP est un petit peu plus intellectuel que, mettons, un Pierre Poilievre.
Ça, c'est clair.
T'sais, il y a des arguments très recherchés, ouais. Il n'est pas juste dans les
poches. Oui, il utilise des mots comme aplaventrisme.
Et vacuité intellectuelle.
Oui, c'est ça. Donc là, c'est... déjà là, en partant, exact. On est à un niveau supérieur.
Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que il y a une plus grande soif pour des politiciens, ouais. Plus plate un petit peu.
Ce qui est le fun pour nous, c'est que la CAQ n'est pas morte avec Christine Fréchette, selon moi, et que ça va nous amener une belle campagne électorale.
Écoute, moi, je ne suis pas prête à faire mes gageures sur qui va gagner la prochaine campagne électorale.
Non, ça va faire une belle campagne électorale autour d'idées, puis peut-être pas juste autour du camp du oui puis du camp du non, ce qui va juste nous faire du bien au Québec.
Elle brouille les cartes, mais là, évidemment, on verra comment se passe le reste de la course, c'est mais c'est sûr que les sondages sont à ouais. L'effet que Mme Fréchette changerait mm-hmm. La donne sensiblement.
Après la pause, l'excellent chroniqueur Rémi Villemur du 99.5 Montréal sera avec nous. Anto, tu nous as parlé mardi dernier, tu nous as dit « Hey, t'es le curam, Jeff, va falloir checker ça parce que c'est de la bouillie pour les chats. » On a parlé avec Christine Normandin vendredi, la leader au niveau du Bloc québécois. C'est rendu à 6,6 milliards. Mais là, Rémi Villemur nous pose la question que je trouve très intéressante à nous et aux auditeurs. Est-ce qu'on va être aussi sévère avec le gouvernement fédéral pour curam qu'on l'est avec la CAQ pour sa clique?
Écoute, c'est une très bonne question. J'ai hâte de voir ce que Rémi va en penser, mais moi, c'est sûr que je suis plutôt pessimiste.
Ouais, exactement, moi aussi. On en jase. À l'émission, on en jase. Après cette courte pause sur Boulevard 102.